Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins qu'à celui lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui, l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, nous sommes de retour après 15 jours d'absence avec une autrice et illustratrice d'un roman graphique, Amour en cendres, Anne Bilose. Bonjour.
Bonjour.
Alors Bilose, je l'appelle pour ceux qui voudraient commander ton ouvrage, Amour en cendres, dans la collection La vie en bulle chez First Edition, c'est B-I-2-L-O-W-I. S. Voilà. Anne, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît?
Oui, alors moi je suis une BDiste depuis 2018. Mais bon, je suis née en Angleterre, à Londres. J'ai habité là-bas pendant 7 ans. Après, ma famille a déménagé à Berlin et j'ai grandi à Caen après. J'ai fait mes études en Angleterre en politique et relations internationales.
À l'université de Warwick.
De Warwick, voilà. Et après, je me suis investie dans le militantisme féministe. Donc, j'ai d'abord été déléguée au départemental aux droits des femmes pendant 3 mois pour un remplacement. Et ensuite, j'ai décidé de créer, de monter ma propre association qui s'appelle Éducation féministe, qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. Et puis j'ai aussi été très active dans le mouvement du NI. Dans l'aide aux femmes victimes de la prostitution et de la traite. Mm-hmm. Et donc pendant à peu près 6 ou 7 ans, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai fait des formations aussi, enfin donné des formations sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales, la prostitution, la pornographie, voilà, j'étais très active sur ces sujets-là.
Alors aujourd'hui je te reçois en l'absence de mes partenaires habituels qui sont tous malades, on les embrasse très fort. Je te reçois pour Amour en cendres, le destin croisé de trois femmes victimes de violences conjugales. Un roman graphique, superbe, superbement Merci. Illustré. Et c'est l'histoire de Andrea, Femi, Sophie. Trois femmes, trois destins. Et chacune a croisé la route d'un homme violent qui a bouleversé sa vie. C'est le résumé de... Voilà. Mais nous allons revenir plus en détail sur les agresseurs, en fait. C'est un roman sur les agresseurs et tu, d'après la fiche technique du roman graphique, on pose quatre questions. Quelle stratégie l'agresseur met-il en place? Existe-t-il des types d'agresseurs? Pourquoi les femmes restent-elles? Et comment tordre le cou aux idées reçues sur la violence conjugale? J'ai bien résumé?
Ah oui, tout à fait.
Bien. Alors, je voudrais que tu présentes ta méthode de travail. Parce que dans les premières pages du roman graphique, tu t'auto-présentes et tu présentes ta méthode de travail. Ces pages, et tu présentes Annie Ferrand et l'asso Relais 77 qui t'a aidé à lancer ce projet. Donc, est-ce que tu peux présenter ta méthode de travail pour ce roman graphique?
Ouais, bien sûr. Donc en fait, ce livre, j'ai mis 2 ans à écrire et à réaliser ce roman graphique, mais en réalité, l'histoire du livre commence il y a beaucoup plus longtemps, puisque à l'origine, ça a commencé avec une commande d'une association qui s'appelle Relais 77. Donc, qui est un centre d'hébergement et d'accueil pour femmes victimes de violences dans le 77, qui fait partie du réseau du réseau FNSF.
Mm-hmm.
Donc,
qui s'occupe de gérer les foyers d'accueil d'urgence.
Oui.
Voilà,
sur
tout le territoire.
Et donc, cette association voulait un outil. D'éducation et d'accompagnement sur les violences conjugales pour aider à la fois les victimes et aussi les professionnels pour expliquer les mécanismes des violences, les conséquences psychotraumatiques et avoir aussi des exemples concrets de différentes situations de violence avec des petites bandes dessinées. Et donc ça a mis à peu près 2 ans à se faire. Et donc ça a été tout un travail en équipe avec des femmes victimes, avec des professionnels du réseau de l'association, et y compris avec Annie Ferrand qui travaillait à l'association Le Relais à ce moment-là.
Alors qui est Annie Ferrand?
Ah oui, donc Annie Ferrand est psychologue. On s'est rencontrés d'ailleurs dans une formation sur les violences conjugales qui avait été donnée par Marie-France Casalis, dont on va parler plus tard. Et donc Annie Ferrand est spécialisée dans les violences faites aux femmes, donc violences sexuelles, violences conjugales et prostitutionnelles. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises donc sur ces sujets-là. Et donc pour ce projet en question, elle a beaucoup aidé puisqu'elle a beaucoup d'expérience dans le suivi des victimes et elle a notamment écrit sur le sujet et donc elle a pu m'aider à aiguiller et à peaufiner certains profils dans les histoires
d'agresseurs.
Ouais, de profils d'agresseurs, ouais. Et donc, une fois le livre fini pour le Relais 77, en fait, j'ai voulu que ce soit diffusé plus largement et pas seulement dans le petit réseau associatif, parce que ça méritait d'être connu. Et je voyais déjà qu'il y avait des retours vraiment très positifs, que ça avait aidé beaucoup de femmes en lisant ce livre. Et donc, j'avais soumis le livre à la maison d'édition First.
Parce que tu les connaissais, tu avais déjà fait un ouvrage pour Oser le féminisme.
Donc c'était au moment où je réalisais des illustrations pour le livre Oser le féminisme sur la sexualité, qui est vraiment excellent d'ailleurs. C'est un peu une bible sur la sexualité pour les adolescentes. Je recommande vivement. Et donc au moment où j'illustrais ce livre, j'avais proposé à First de faire quelque chose avec le livret que j'avais réalisé pour le Relais 77, et elles ont beaucoup aimé le projet, elles ont proposé que j'en fasse un roman graphique. Mm-hmm. Et donc j'enlève un petit peu le... Enfin, que je réduise le côté théorique et que, en fait, que je me focalise davantage sur les histoires, et donc à partir de là... J'ai commencé à interviewer des femmes victimes, à écouter des témoignages, et j'ai refait en fait à nouveau tout un travail de recherche pour remettre à jour la partie théorique aussi. Et donc en tout, j'ai interviewé une vingtaine de personnes. Et à partir de là, j'ai écrit les scénarios et les personnages, puisque les personnages sont fictifs, mais... tout est à partir d'histoires réelles. En fait, j'ai rien inventé pour écrire ces histoires.
D'accord. Alors, tu vas nous définir la violence conjugale, parce que on va en parler pendant toute l'émission. Qu'est-ce que c'est que la violence conjugale? C'est bien expliqué, pages 10 et 11 de ton roman graphique.
Ouais, alors c'est la grande question. Enfin, pour moi, c'était hyper important de définir la violence conjugale dans ce livre. Déjà, c'est important de dire ce que ce n'est pas. En fait, quand on parle de violence conjugale, on imagine souvent que c'est des coups et c'est ou c'est des violences circonscrites dans le temps. Qu'à un moment donné, la personne elle explose, elle est violente et puis après ça redevient normal. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un système de contrôle qu'instaure une personne sur l'autre. Mmh. Et donc, c'est d'abord l'instauration d'un contrôle sur l'autre par l'agresseur, et qui va exercer une domination sur sa victime pour obtenir ce qu'il veut. Et donc, ce qu'il veut, ça va être l'obéissance, des services. En fait, par ce contrôle, l'agresseur va chercher à obtenir des services matériels, des services sexuels, une certaine déférence et des privilèges, etc. Et donc, pour citer Muriel Salmona dans la BD, elle dit que la violence conjugale est toujours une recherche de pouvoir sur l'autre, de satisfaction de ses propres attentes au détriment de l'autre. Et la possessivité et le sentiment d'être dans son bon droit en exerçant son autorité sur sa partenaire sont au cœur de la violence. Donc, en fait, là, on voit aussi que ça n'a rien à voir avec l'amour.
Ah non. C'est bien démontré dans le roman graphique. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir avec l'amour. Strictement rien. Vraiment. C'est un postulat. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir avec l'amour. Alors, le docteur Muriel Salmona, nous l'avions reçu dans l'émission Pas de quartier. L'émission est en ligne sur le site du groupe Louise Michel. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez vous y reporter. Et elle nous avait expliqué ce que c'était la violence traumatique. Voilà. Alors, donc la violence conjugale, selon Muriel Salmona, et on va aborder peut-être la première histoire, celle d'Andrea.
Mm-hmm, ok.
Alors, Andrea, à l'université, donc Andrea rencontre Thomas, un bel homme charismatique, qui abuse d'elle et la manipule. Voilà, pour résumer l'histoire d'Andrea. Mais ce qui est formidable dans les profils que tu as choisis, c'est que c'est en dehors de l'idée reçue d'une femme sous-cultivée, pauvre intellectuellement et tout le reste, pas du tout. Ce sont des femmes qui font des études, qui ont un métier, qui sont épanouies professionnellement et qui tombent dans l'emprise d'un homme et de la violence. Et c'est pour ça que ce livre est important. Et quelque part, de le faire en roman graphique, ça atteint la cible qui est la plus vulnérable dans ce genre de relation, c'est la cible des jeunes femmes diplômées ou des jeunes femmes qui sont dans la vie active.
Oui, 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 tout à fait. Bah, pour moi, c'était important de montrer que ça concerne toutes les catégories. Et on se fait déjà, on a déjà ce stéréotype et ce cliché de la victime qui est pauvre, extrêmement vulnérable. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de renforcer ce cliché, puisque après, il y a réellement des victimes qui sont dans cette situation, mais il y a aussi beaucoup qui ne le sont pas.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Jessica Taylor, une Britannique qui est spécialisée dans les violences conjugales. Et qui disait sur Instagram l'autre jour qu'il ne faut pas croire que l'agresseur va toujours chercher à cibler une femme déjà extrêmement vulnérable ou brisée. En fait, c'est-à-dire qu'il va chercher il y a aussi des agresseurs qui, justement, vont aller chercher des femmes qui ont du succès, qui sont... qui sont
brillantes.
Brillantes, extrêmement intelligentes et haut placées dans ce qu'elles font, et justement qui vont chercher à la briser parce qu'elles ont du succès et parce qu'elles sont très douées dans ce qu'elles font.
Et c'est le cas de ces trois profils dans le roman graphique. Alors, revenons à Andrea. Quel est son parcours?
Dans sa relation ou
Non, avant qu'elle ne rencontre Thomas. Andrea est universitaire.
Oui, donc. Elle fait des études de droit. Et donc, elle était déjà féministe avant qu'elle rencontre Thomas.
Et ça, c'est important de le souligner.
Ouais. Et donc, elle avait déjà une sensibilisation... une certaine conscience des violences, une sensibilisation à la question des violences conjugales. Et elle était persuadée que ce savoir la
protégeait. Mettait à l'abri.
Oui, c'est ça. Et en fait, quand elle s'est mise en relation avec Thomas, elle a été prise... elle a été assez vite engluée. Elle n'a pas... elle avait beau se sentir pas bien, elle n'arrivait pas à voir et comprendre ce qui lui arrivait.
Tout à fait. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment donné, tu dis, dans le roman, dans la partie consacrée à Andrea, ceci qui est très important, tous les agresseurs se ressemblent. C'est page 35. Il y a 5 fondamentaux où on peut les reconnaître. Mais ils se ressemblent tous.
Oui, donc ça, c'est une citation de Marie-France Casalis, justement.
Voilà.
Et donc, effectivement, à la fois, chaque personne est unique et particulière dans sa façon de fonctionner, mais en même temps, quand on regarde quand on regarde la violence et les schémas de violence, on constate qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, en fait. Mm-hmm. Et c'est ce que Marie-France Casalis a observé, et elle en a tiré un peu des grands principes, des grands schémas à travers lesquels agissent les agresseurs. Et donc, elle explique qu'ils agissent en fonction de 5 priorités fondamentales, de 5 stratégies fondamentales qu'on retrouve dans toutes les violences, qu'elles soient sexuelles, que ce soit des violences conjugales, quand on regarde les violences étatiques ou structurelles, en fait, on observe tout le temps les mêmes schémas. Est-ce que je les décris
S'il te plaît.
Ouais. Elle explique que l'agresseur agit selon 5 priorités. Donc la première, c'est isoler la victime.
Voilà.
Donc géographiquement, socialement, affectivement, professionnellement. La deuxième priorité, c'est la dévaloriser, la traiter comme un objet. En l'humiliant, la dénigrant, la critiquant, il va la moquant, insultant, pour la rendre confuse et la priver de ses capacités de penser. Mm-hmm. Et ensuite, pour qu'un agresseur ne se sente pas coupable et aussi pour que la victime se sente coupable à sa place, il va inverser la culpabilité Et, donc,
et ça, c'est fondamental. Ça. Il y a peu de gens le comprennent. C'est elle qui m'a provoquée, c'est de sa faute. C'est...
Oui, c'est ça. Elle m'a énervée. Oh, c'est, elle n'est pas assez comme ci, elle est trop comme ça. Et surtout, il va aussi se faire passer pour la victime.
Oui, auprès de l'entourage extérieur.
C'est ça, voilà.
Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. La victime est déjà isolée. Elle est chosifiée. Et l'entourage ne se rend pas compte de ce qui se passe.
Exactement. On a tous entendu ces histoires. Ce bon père de famille qui a tué ses 5 enfants, mais il était si aimable. Voilà.
Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Le voisinage a rêvé venir.
Oui, exactement. Et puis, ça marche aussi très bien, comme le dit Marie-France Casalis, parce qu'en tant que fille, on a appris à être aimable, à nous adapter et à comprendre les autres. Et donc, on a tendance aussi à endosser des responsabilités que l'on n'a pas. Donc, la quatrième priorité, c'est instaurer un climat de peur et d'insécurité. Et donc, ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il va faire régner la terreur. Et quand on est terrorisé, on n'a plus besoin de consignes. On sait qu'il faut faire comme ça parce que sinon, ça peut être pire.
Voilà. Et la cinquième ?
La cinquième, c'est assurer son impunité.
Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a autant de mal à aller en justice et que souvent la justice est obligée de correctionnaliser les dossiers parce qu'il n'y a pas d'éléments. La parole est dévalorisée de la victime et l'agresseur a veillé à ce que les éléments soient dilués quelque part.
Oui, tout à fait. Enfin, en plus, il y a plein de façons dont ils vont chercher à assurer leur impunité. Ça va être en recrutant des alliés.
Voilà.
Souvent... Chez des voisins, chez des gens puissants, enfin là où ils peuvent les chercher. Et ça va être en se montrant gentil à l'extérieur, en organisant une coalition contre les faibles. Et puis aussi en impliquant la victime dans les faits. Donc de façon à faire passer la victime pour
ce qu'elle n'est pas.
Ouais, c'est ça. Et en dernier, il va chercher à verrouiller le secret. Donc il va tout mettre en place pour que la victime ne puisse pas parler, ou que si elle parle, on ne la croit pas.
Voilà. Donc ça explique dans certains dossiers que la violence peut continuer pendant des décennies. Et ni les travailleurs sociaux, ni l'entourage, ni personne n'est au courant. Et on se demande après coup, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas pu savoir ?
Oui, tout à fait. En fait, ça agit vraiment comme une prison. C'est-à-dire que c'est pas juste une prison matérielle. Enfin, il y a à la fois la prison matérielle dans le sens où il y a un contrôle réel et physique des allées et venues de la femme. Enfin, pas toujours, mais ça peut arriver et ça peut atteindre des points assez extrêmes. Mais il y a aussi un contrôle psychologique extrêmement fort. Et aussi, comme la société considère les victimes comme... Il y a une espèce d'inversion de la honte, c'est-à-dire que la honte est posée espèce sur les victimes et non pas sur les agresseurs. Et donc, il y a une espèce de honte aussi à admettre qu'on a été victime, alors qu'en fait, c'est absolument pas de notre faute, c'est pas de notre fait. Et il y a tout un ensemble de facteurs qui verrouillent le secret, en fait, sur les
victimes. Alors, je voudrais que tu présentes Marie-France Casalis pour nos auditeurs, parce qu'on l'a citée, mais on ne l'a pas présentée.
Oui, tout à fait. Donc, Marie-France Casalis, je l'ai rencontrée au collectif féministe contre le viol. C'est la cofondatrice de ce collectif qui a été créé en 1985, si je m'abuse.
Oui, 85,
ouais,
oui.
C'est ça. Elles ont donc un groupe de militantes, y compris Marie-France Casalis, qui travaillait au planning familial à l'époque. Et en fait, suite à une série de viols perpétrés à Paris, elles se sont mobilisées. Et après, elles ont réalisé qu'il n'y avait aucune aide pour les victimes de viols dans la capitale. Et donc, elles ont décidé de créer un numéro vert national.
Tout à fait.
Et c'est devenu le collectif féministe contre le viol.
Voilà.
Et donc, depuis, elles ont, en plus de ce téléphone, elles ont créé des formations
spécifiques.
Spécifiques sur les violences conjugales.
Voilà. Donc, voilà pour Annie Ferrand, l'association Relais 77, et Marie-France Casalis. Donc... je voudrais que tu commences et on le fera dans la deuxième partie à parler de stratégie. Parce qu'un agresseur, c'est un homme qui a une stratégie. Il en a même plusieurs. Donc, est-ce que tu pourrais commencer à nous parler des stratégies de l'agresseur? Et on continuera dans la deuxième partie.
D'accord. Et ben en fait, on vient juste d'en parler. C'est les cinq
voilà,
principes.
Les cinq trucs. Ouais. Mais je voudrais qu'on en vienne à comment ils les appliquent sur le terrain. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est page 62 et 64.
Ah oui. Et ben c'est ce qu'on vient de...
Voilà. Ouais. Alors, attends. Que je m'en mêle dans mes fiches. Oui, c'est ça, les stratégies de l'agresseur, page 62-64, la présentation de Madame Casalis. Et on va arriver à la présentation de la deuxième personne, qui est Fémie.
Oui,
justement.
Okay.
Pardon, je me suis trompée dans mon plan. Alors, Fémie, elle rencontre Patrick à la chorale de son église. Une perle qui se révèle être un contrôle fric extrêmement violent. Donc, qui est Fémie?
Donc, Fémie, c'est une femme qui a grandi au Bénin. Donc, elle est née à Cotonou. Et ensuite, sa famille a déménagé à Abidjan alors qu'elle était au collège. Et donc, à 18 ans, elle quitte Abidjan pour aller étudier à Nantes. Et c'est en tant qu'étudiante qu'elle rencontre son compagnon, Patrick. Alors qu'elle vient de quitter son ancien copain avec qui elle continue une relation à distance à Abidjan. Et donc elle rencontre Patrick dans un moment de...
Où elle est vulnérable.
Oui, elle est de solitude.
D'extrême solitude. Ouais, et parce que son compagnon, qui ne supportait pas la relation à distance, l'a sommé d'y mettre fin.
Oui, voilà, c'est ça.
Et après, lui annonce brutalement qu'il est avec une autre. Et donc elle se retrouve... Largué, complètement largué.
Voilà, c'est ça.
Bon, on va faire une pause musicale et on va revenir plus en détail sur Patrick et Fémie. Jean-Michel, s'il te plaît.
Quand tes yeux ont croisé les siens à la faveur d'un soir de juin, ton cœur était un fleuve à sec et toi t'as craqué pour ce mec. Oreilles plus décollées qu'une collection de vieux papiers peints, la gueule d'un pote à Georges Clooney, le genre beau gosse mais vu de loin. Du coup t'es tombée amoureuse, puis t'es tombée aussi enceinte, avant même de tomber heureuse, tes espérances étaient défuntes. Il est comme ça, gros con, un brin paumé, légèrement aviné. Et quand il rentre, gros con, lui il peut toujours t'assurer que celle-là tu l'as pas volée. Les pertes de gifles en rafale, c'est pour le cumul des mandales. Si t'aimes c'est autant pour ton cul que pour vos hématomes crochus. T'as beau mentir à tes copines, leur faire le coup de l'escalier, tes bleus cœur, les turlupines. Vu que t'habites au rez-de-chaussée, elle voudrait te voir pour tes plaintes. Mais gros coup tu l'as dans la peau, et toi de manger porte ses plaintes, tout en ravalant tes sanglots. Comme ça, gros con, un brin paumé, légèrement aviné. Et quand il rentre, gros con, lui il peut toujours t'assurer, hey, que celle-là tu l'as pas volée. Mettre les voiles, que tu te fendes d'une carte postale, de Palavas avec écrit je suis heureuse et presque en vie. Mon cœur n'est plus suis un fleuve à sec. Et j'ai même craqué pour un mec qui ne me frappe que par l'amour qu'il a pour moi depuis le jour où j'ai quitté, gros con, un brin paumé et toujours aviné. Et quand je pense au fond à sa vie, moi je peux t'assurer que celle-là il l'a pas volée.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Anne Billows pour son roman graphique Amour en cendres chez Édition First. Alors, nous parlions de Fémy, on a commencé à la présenter. Fémy est dans d'un milieu aisé.
Oui, tout
ça,
à fait.
Et ceci a son importance, parce que c'est peut-être pour ça qu'elle est ciblée par Patrick, justement, qui lui vient d'un milieu beaucoup plus modeste.
Oui, complètement. Il a une espèce de hargne, en fait, contre voilà. Fémy, du fait qu'elle vient d'un milieu aisé d'Abidjan. Donc, elle avait des serviteurs à la maison. Elle n'avait jamais appris à cuisiner. Voilà. Et donc, en fait, il va utiliser ça constamment contre elle pour la dénigrer. Et pour lui dire que c'est une bonne à rien, qu'elle est mal éduquée, ouais. Que c'est une princesse qui se fait servir, etc.
Tout à fait. Voilà. Alors, dans la partie Fémy, dans la partie qui est consacrée à Fémy, entre sa partie 1 et sa partie 2, tu reviens sur le profil des agresseurs sexistes et ce que tu appelles le cycle des violences, page 90-91, très précisément.
Ouais.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, tout à fait. Déjà, pour la spirale de la violence, en fait, c'est un concept qui a été, je ne sais pas, inventé, mais en tout cas nommé par Marie-France Irigoyen, qui est spécialiste...
Irigoyenne. Ça se prononce Irigoyenne, je crois.
Ah, peut-être. J'ai jamais entendu...
Je crois que c'est comme ça que c'est, okay. Voilà, Irigoyenne, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. J'ai regardé sur Internet, hein, voilà. Elle a fait des livres très importants sur tout ce qui était burn-out.
Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, elle explique que toutes les relations violentes ne connaissent pas forcément des cycles. Mais... si on observe des cycles de violence dans une relation, on peut être sûr qu'il y a de la violence dans la relation. C'est-à-dire que la violence, elle peut des fois simplement être constante, elle n'est pas forcément cyclique. Mais ce que je trouve intéressant avec le travail de Marie-France Irigoyen, c'est qu'elle parle pas seulement de cycle de violence, mais de spirale de la violence. Mmh. Et c'est une notion importante parce qu'en fait, ça tourne pas seulement en cercle. C'est-à-dire que le cercle, il se resserre à chaque nouvel épisode de violence.
Et ça, tu le montres bien dans ton roman graphique.
Oui, voilà, c'est ça.
Tu as réussi à le dessiner. c'est très bien fait, vraiment. C'est très explicite.
Et donc dans les cycles qui se répètent et qui se resserrent à nouveau à chaque fois, donc il y a des différentes phases et il y a la phase de séduction qui est rattachée à la victime, à lui, instaurer une dépendance affective, enfin c'est toute la phase de réconciliation sur l'oreiller. Mm-hmm. Ensuite la deuxième phase, c'est la phase de tension. Donc, où là, donc après la phase de séduction, il y a une tension qui va s'installer petit à petit. Il va instaurer de nouveau un climat de peur et d'insécurité. Et ensuite, après cette tension, il va y avoir la phase d'explosion, donc avec une escalade brutale de la violence. Puis, une phase de déni après cette explosion. Donc, les culpabilisations, le chantage, le déni de la violence, les fausses promesses, je te promets, je ne referai plus jamais ça, je suis vraiment désolée. Et donc, on revient dans la phase de séduction et on retourne dans ce cycle. Et ensuite, avec l'escalade de la violence, en fait, on peut simplement... ça va alterner entre explosion, tension, explosion, tension. C'est-à-dire que des fois, il n'y aura même plus la phase de séduction. En fait, ça sera.
Ça... Et ça, c'est le cas dans Fémy. À un moment donné, effectivement, il ne passe plus par la séduction. Il va carrément dans la brutalité.
C'est ça.
Ça va crescendo.
Voilà.
Donc. Donc, il y a Femi, à un moment donné, qui part, qui est amenée à porter plainte. Et je voudrais que tu parles de la réaction du policier. Elle est terrible. Page 124.
Ouais. Oui, alors ça, donc en fait, le policier... Femi va porter plainte à la police.
Elle veut porter plainte.
Voilà, elle a l'intention d'y aller. Et,
elle prend son courage à deux mains, déjà.
C'est ça. Et donc, le policier dit... oh, c'est rien, c'est des disputes conjugales. Vous n'allez pas porter plainte pour ça. On n'est pas des conseillers conjugaux, madame. Nous ne sommes pas là pour régler vos conflits. Vous savez qu'il peut aller en prison avec une plainte. C'est très grave, madame.
Et du coup, elle en est réduite à faire une main courante.
Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est terrible. Parce que le nombre de femmes qui ont été tuées après avoir fait plein de mains courantes, c'est légion.
Complètement. Il y en a qui ont déposé jusqu'à 20 mains courantes avant d'avoir été tuées.
Voilà.
Et donc là, les phrases du policier, je les ai recopiées texto de ce que certaines femmes m'ont raconté, en fait. Donc,
voilà. Donc ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, on se rend compte que les policiers ne sont pas formés à recevoir les victimes. Quand ils peuvent les recevoir, c'est pas qu'ils font mal leur métier, ils le font avec les moyens du bord parfois. Et après, la justice ne peut que correctionnaliser, comme je disais en première partie, le dossier. Donc les victimes n'ont jamais gain de cause dans ces dossiers. Ou alors, elles viennent à recevoir le pire, c'est-à-dire être tuées. Trois femmes et demie.
Une femme tous les 3 jours et demi.
Voilà, une femme tous les 3 jours et demi, voilà, pardon.
Oui, c'est ça.
C'est ça les statistiques. Meurt sous les coups de son conjoint.
C'est ça.
Et on peut remercier le collectif qui recense les féminicides, un peu dans l'indifférence des pouvoirs publics, quelque part.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est important à noter dans le compte des femmes tuées, c'est qu'il y a aussi un chiffre invisible. C'est tous les suicides des femmes ou toutes les femmes qui sont mortes suite à la négligence, c'est-à-dire qui sont malades et le mari refuse de la soigner, ou qui sont mortes de maladies à cause d'années de violence. Voilà. En fait, simplement, elles sont épuisées et malades à cause des violences, mais sans forcément avoir été tuées directement. Mmh. Et donc, en fait, disons que il y a un coût énorme à la violence qui est beaucoup plus grand que celui qu'on compte.
Mais déjà, le décompte est affreux.
Oui, affreux, complètement. Oui.
Complètement. Alors, donc, la réaction du policier fait que Femi va déposer des mains courantes et elle ne... On ne va pas raconter, mais elle est enceinte lorsqu'elle porte plainte. Quand elle veut porter plainte.
C'est ça.
Et avec Patrick, elle aura 3 enfants.
Oui, tout à fait.
Donc, on ne raconte pas l'histoire, fin, parce qu'il faut que les gens prennent la BD, mais ça vous... Et tu analyses bien la violence ressentie par les enfants.
Ah oui.
Et c'est indicible.
Oui, complètement. Bah, en fait... un enfant en développement, je pense que vous parlez notamment des moments où, avec le bébé, la naissance du bébé.
La première Diane.
C'est ça, où je montre une journée dans la vie de Femi.
Oui.
Et du matin jusqu'au soir, et un peu le calvaire en fait que peuvent vivre à la fois les femmes et l'enfant, dans une vie rythmée par les violences d'un père violent. Et je voulais vraiment montrer en fait à quel point le quotidien est miné par la violence,
et ça c'est pas pris en compte par la société.
Oui. Et en fait, comme ça se passe à huis clos, en fait, on a très peu de visibilité sur à quoi peut ressembler le quotidien d'une femme qui vit dans la violence. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à raconter, en plus pour une victime, parce que c'est plein de... C'est des choses qui sont répétées dans le temps, c'est plein de gestes, plein de paroles qui sont répétées dans le temps plein de fois. Et c'est extrêmement difficile à mettre des mots dessus.
Moi, j'ai été émue par... Lorsque Fémy se rend compte qu'il va déraper, elle met les enfants à l'abri. Mmh. Ou quand elle n'en peut plus, elle demande à la petite d'appeler les pompiers.
Ouais.
Les pompiers arrivent.
Ouais.
Donc, on ne va pas raconter ce qui se passe. Mais qu'elle en vienne à supplier la petite d'appeler les pompiers, et la petite le fait.
Mmh.
Ça donne une idée de la violence. Et il faut voir l'attitude de Patrick quand les pompiers arrivent. On ne va pas le raconter, mais c'est inouï.
Oui, complètement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans les pires moments de violence, la mère est capable de penser à la
protéger,
sécurité des enfants.
À protéger les enfants,
ouais.
À son détriment.
Mmh. C'est ça.
Bon, alors ça en vient à la question que j'énonçais dans... puisqu'on on a fait les stratégies, les profils. La question qui est très importante est... Pourquoi les femmes restent-elles ? Qui, d'après les spécialistes, est une négation de la violence ?
Oui.
Que subissent ces femmes ?
Tu
vas l'expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que la réaction du grand public, c'est « Mais pourquoi elles sont restées autant de temps ?» Non, pourquoi on leur pose cette question ? Alors qu'on ne la poserait pas à d'autres catégories de victimes. C'est ça qui est important.
Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que rien que le fait qu'on se pose la question pourquoi elle reste, ça montre déjà l'incompréhension qu'on a dans la société de ce que c'est que les violences conjugales.
Oui.
Parce qu'on ne se pose pas la même question pour d'autres types de violences comme les prises d'otages ou des formes de séquestration. Des formes de violences qui peuvent être similaires, mais quand il s'agit d'une oppression différente de celle spécifiquement infligée aux femmes. Et comme si la violence conjugale n'avait pas pour but d'empêcher la victime de se soustraire à la violence, en fait. Comme si la victime choisissait volontairement d'aller dans une relation violente et que si elle restait, c'est parce qu'elle le voulait bien ou qu'il y a des failles en elle qui font qu'elle veut bien rester, mais enfin voilà, ou qu'elle a un rôle quelque part. En fait, il y a une sorte de culpabilisation, une responsabilisation des victimes dans cette pensée, dans la façon de penser les violences conjugales qui n'existent pas de la même façon dans d'autres types de violences.
Est-ce que ça vient pas du fait que la société veut se décharger, de se déculpabiliser du rôle qu'elle ne fait pas envers les victimes?
Ah bah complètement. Oui, il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que l'inversion de la culpabilité mettent en place les agresseurs, c'est-à-dire que l'idéologie des agresseurs eux-mêmes s'infiltre dans la société, en fait. Et puis, pendant un temps, elle a été... c'est-à-dire que ça fait pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité que, pas dans la France notamment, que la violence conjugale est criminalisée. C'est-à-dire qu'il y a, c'est dans la culture, l'idéologie de l'agresseur a encore beaucoup de traces dans la culture mainstream. En fait.
Bon, est-ce que ça vient pas du fait que nous sommes dans une société patriarcale?
Oui, peut-être.
Certainement. Et ça, tu le montres bien. Il y a les bulles. Mais on va en revenir au mur des portraits.
Ah oui.
Si tu veux bien en donner un ou deux qui est parlant.
Oui, donc en fait, j'ai repris le concept de profil des agresseurs tel qu'avait été écrit dans le livre de Landy Bancroft et aussi écrit par Annie Ferrand. Donc je me suis largement inspirée et même paraphrasée leur travail. Et en fait, j'ai trouvé ça très important de montrer des profils d'agresseurs parce que Souvent, quand on parle de violence, des fois, certaines personnes ne vont pas se reconnaître dans telle ou telle violence. Et c'est pour montrer, en fait, la
gamme.
La gamme de violence qu'il peut y avoir en fonction de la culture, de la classe sociale, de la personnalité. Et donc, après, évidemment, il y a une infinité de possibilités. Mais,
sans compter qu'ils se combinent, ils peuvent être l'un ou l'autre. Selon
oui, voilà. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas non plus mono.
Mono profil.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors. Cite-nous un profil qui te vient à l'esprit,
alors,
parlant. Quoi qu'ils sont tous parlants dans ce mur.
Monsieur sensible, il prêche la non-violence, est doux et attentionné quand ça va dans son sens. Il utilise le langage des émotions, de l'introspection pour manipuler et parvenir à ses fins, mais il peut aussi se montrer cruel et intimidant à l'abri des regards. Monsieur narcissique. Il se cherche une compagne exceptionnelle dont il va essayer d'absorber les qualités ou de les éliminer dans une concurrence acharnée. Elle aura pour fonction de flatter l'image grandiose qu'il veut donner de lui-même. Il percevra la moindre défaillance ou critique de la part de sa compagne comme une attaque à son existence.
Et un dernier
Monsieur sadique. C'est celui qui éprouve le plus de satisfaction et de jouissance à voir sa victime terrifiée, à la souiller moralement et sexuellement. L'intention sadique est celle qui est la plus violente à subir pour un être humain et qui provoque la plus grande détresse, la honte et le dégoût chez les victimes.
Voilà. Tout est dit. Tout est vraiment dit. Donc, ce tableau est vraiment parlant et vraiment... J'ai envie de... Je trouve que ce manuel d'utilisation, il faut le mettre entre toutes les mains d'associatifs. Et il y a même le tableau page 140, qui est le tableau de la relation, qu'il faut cocher en début de relation pour savoir si on est dans une bonne relation ou une relation de violence. Donc ce tableau-là.
Oui.
Voilà. Donc, est-ce que tu peux lire l'intitulé du tableau ?
Donc, en fait, c'est un tableau pour aider à identifier et à comparer ce que l'on ressent lors d'un attachement stable par rapport à un attachement traumatique.
Voilà, tout à fait.
Et donc, dans les pages d'avant, je définis ce que c'est que l'attachement traumatique. C'est-à-dire que, en fait, c'est une autre façon de dire le syndrome de Stockholm.
Voilà.
Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée personnellement, de rechercher tout ça et de comprendre même moi-même dans mes propres relations, là où je pouvais avoir un attachement traumatique et versus comment on se sent quand on se sent bien. Et en fait, c'était vraiment très important pour moi de montrer à la fois quels sont les signes d'une relation où il y a peut-être de la violence et quels sont les signes quand on se sent bien, parce que c'est fondamental pour savoir à quoi se référer, en fait.
Tout à fait.
Ce tableau-là, il est inspiré du tableau de Nicole Lepera, qui est une psychologue américaine. Qui a écrit des livres sur la psychologie holistique. Et des exemples de signes d'attachement stable et sain. En sa présence, je me sens stable émotionnellement, paisible, neutre, en sécurité et libre d'être tel que je suis. Ça a presque un côté banal.
Mmh. Et en face ?
Ouais, en face. Donc, les signes d'attachement traumatique. La relation est intense, avec des hauts et des bas, comme dans les montagnes russes, comme s'il était ma drogue.
Voilà. Donc tout est dit. Et il y a dix cases de chaque côté. Donc il faut faire. C'est comme une relation au début. On prend une feuille de papier, on tire une barre entre les deux, le pour et le contre, et on fait le bilan. Et bien c'est un bilan amoureux et relationnel qu'il faut avoir. Il faut avoir ce tableau au début de chaque relation. Et si vous avez des amis que vous sentez partir vers une relation traumatique, donnez-lui ce tableau. Et qu'elle le coche, et qu'elle réalise ce qu'il en est exactement, ça lui sauvera la vie. Vraiment, sauver la vie. Et je ne plaisante pas, parce que tous les 3 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Et nous sommes en France.
Oui, ouais, tout à fait.
Voilà. Bien. Donc, la troisième et dernière portrait, c'est Sophie. Alors, Sophie, le résumé, c'est... Après avoir discuté avec lui sur un site de rencontre, Sophie tombe amoureuse de Julien, un homme envahissant et égocentrique. Voilà. Donc, on va présenter Sophie avant de détailler, dans la troisième et dernière partie, ce qu'il faut en retenir sur les mythes et clichés sur les agresseurs. Voilà. Donc, Sophie, quel est son profil ?
Donc Sophie, c'est aussi une jeune femme de 26 ans et donc qui a rencontré son compagnon sur un site de rencontre. C'est quelqu'un qui enchaînait un petit peu les relations, qui n'était pas très satisfaite de ses relations, qui tombait souvent sur des gars
limite.
Bon, elle, selon ses dires, la cite, soit des boulets, soit des bourreaux. et donc elle était souvent dans des situations où elle avait la charge mentale et émotionnelle, ou des gens qui faisaient pas attention à elle. Et donc en fait, elle était un peu en manque affectif quand même. Et donc, quand elle tombe sur Julien, c'est quelqu'un de très présent, de très engagé, très actif, avec qui elle partage beaucoup de choses, et donc elle est tout de suite très emballée.
Alors, c'est le syndrome de l'élu, entre parenthèses.
Oui,
ça, tu le montres bien. C'est un des caractéristiques. C'est-à-dire que Julien a plein de conquêtes, mais il l'a choisi, elle. Donc, elle se sent élue. Donc, c'est dangereux. Ça, beaucoup de femmes tombent dans le panneau avec ce genre de personnages.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est là où une analyse aussi féministe peut aider aussi à comprendre ce syndrome. C'est-à-dire que je pense que des femmes ne se sentiraient pas aussi chanceuses d'avoir quelqu'un qui la traite tout simplement de manière décente s'il n'y avait pas autant d'expériences d'hommes qui ne savent pas respecter les femmes, en fait.
Tout à fait.
Et donc, ça fait que... Ça accroît le sentiment de dépendance et de gratitude qu'on peut avoir envers un homme qu'autrement, on n'aurait pas, en fait.
Tout à fait. Et qu'on ne devrait pas avoir. De tout.
C'est ça, et d'où l'importance vraiment d'avoir des standards, enfin, de réfléchir en fait à ces standards dans une relation. Qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on tolère pas dans quelque relation que ce soit amicale, amoureux, avec des femmes, avec des hommes, et de pas baisser ces standards sous prétexte que c'est un homme, en fait.
Oui. Et surtout, on devrait se poser la question de savoir si on va avec quelqu'un qui déjà commence à vous dire du mal de ses ex. Voilà. Et à se donner le bon rôle par rapport à elle. Ça devrait être un signal rouge.
Oui, complètement. C'est ce qu'on appelle le red flag en anglais.
Voilà.
Un signal d'alerte. oui, tout à fait. C'est pas un bon signe si...
C'est un très mauvais signe.
Ouais, si la personne passe son temps à critiquer tous ses ex. Ça veut dire que, en fait, c'est plutôt un présage de ce qu'il risque de faire avec vous dans le futur.
Tout à fait. Et on le voit bien dans le roman graphique. Ouais. On le voit vraiment bien. Donc Julien, envahissant et égocentrique, et on va parler aussi d'une personne qui joue un rôle très important, mais on va pas révéler pourquoi, la mère de Sophie. Parce qu'on n'a pas parlé d'Amphémie, mais sa famille a joué un rôle très important. Sa famille est traditionnelle. Donc quand elle a essayé d'avoir du secours de sa famille lui a expliqué qu'en gros, elle avait des enfants, elle était mariée, et qu'il fallait qu'elle s'adapte à Patrick. Alors que la mère de Sophie va avoir une approche différente.
Oui, même inverse, quelque part.
Voilà. Mais on ne va pas expliquer pourquoi.
Okay, okay.
Il faut donner des clés pour que les gens comprennent la partie de Sophie. Alors là, nous allons demander à Jean-Mi une pause musicale et nous allons revenir sur Sophie plus profondément en troisième partie. Alors, Jean-Michel.
Is godlike and warlike and strong-like only some show. And they're sad-like and mad-like and had-like we know. But by my light be I spirit, and by my heart be I woman, and by I open, and by my hands be I hold. They say slowly brings the least chalk, but no matter how slow I walk, there are traces, empty spaces, and doors and doors of the hog. But by my light be I spirit, and by my heart be I woman, and by my eyes be I open, and by and I hope you choose it well. Though you try hard, you may fall prey to the jaded jewel. But by your lives be you spirit, and by
de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Je suis dans la dernière partie de notre émission avec Anne Billows pour son roman graphique Amour en cendres chez les éditions First dans la collection La Vie en Bulle. Alors, nous en revenons à Sophie. Sophie, c'est partie 1 et partie 2. Il y a des mythes et des clichés sur les agresseurs. On a donné les statistiques. Et surtout, il y a 12 idées reçues. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que tu pourrais en lire quelques-unes, les plus marquantes ou celles qui...
Ouais. Alors, déjà, par rapport aux idées reçues, moi-même, ça m'a beaucoup travaillé, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à éclaircir, décortiquer certains points, même pour moi. Notamment, je pense que celle avec laquelle moi-même j'ai eu le plus de mal, c'est avec l'idée reçue qu'il a été maltraité dans son enfance, il est torturé par ses névroses infantiles, et c'est pour ça qu'il est violent. Et c'est vrai que ça peut paraître perturbant parce que on constate quand même assez souvent qu'il y a une espèce de répétition de la violence. Effectivement, les personnes qui sont à la fois victimes et agresseurs, il y a quand même une plus forte proportion de personnes qui ont été victimes dans l'enfance. Mais ce n'est pas le fait d'avoir été victime qui rend agresseur. Ça, c'est vraiment très important parce que il y a un problème dans ce raisonnement parce que ça voudrait dire que toutes les victimes deviennent agresseurs.
Et c'est pas le cas.
Et c'est pas du tout le cas. Déjà, d'abord, les filles représentent l'immense majorité des victimes à l'enfance parce qu'elles sont davantage victimes de violences sexuelles par rapport aux garçons. Et donc ça, c'est un facteur vraiment immense dans le fait de subir des répétitions à l'âge adulte. Donc, une fille sur 5 contre un garçon sur 8 subit de la maltraitance à l'enfance. Et deuxièmement, malgré les psychotraumatismes, les filles victimes à l'enfance deviennent rarement des conjointes violentes et parfois des victimes à l'âge adulte. Et donc le fait en lui-même d'être victime ne peut pas être le seul élément déterminant de passage à la violence. Mmh. Et qu'est-ce qui le détermine ? Moi, j'ai pas abordé en profondeur dans la BD, mais c'est là où encore une analyse féministe peut venir en aide. C'est que y a un aspect de la socialisation différente entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les garçons vont plus facilement s'identifier à l'agresseur, au père violent, par rapport aux filles qui vont plus facilement s'identifier à leur mère. Et il y a le facteur de socialisation qui fait que quand on subit des traumatismes, on ne va pas agir sur la mémoire traumatique de la même façon selon si on est une fille ou un garçon. Et ça d'ailleurs, Muriel Salmona, elle en parle, elle explique bien. Et puis, il y a aussi un élément de choix en fait dans la violence. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de passif. C'est, à un moment donné, il y a un choix de passage à la violence aussi. Et il y a un choix, on peut tout à fait choisir d'arrêter de la même façon.
Mmh. Oui.
Alors, une autre idée reçue. C'est un malade mental.
Oui.
Il est drogué ou il a des troubles psychologiques, il est déviant. C'est une idée reçue parce que de nombreuses études montrent que la majorité des conjoints violents n'ont pas plus de problèmes psychiatriques ou addictifs que le reste de la population. Et qu'il n'y a pas de pathologie spécifiquement liée à la violence conjugale. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi plein de personnes qui ont des problèmes psychologiques et des maladies mentales qui ne sont pas des conjoints violents. Et voilà. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que si un conjoint violent a, en plus de sa violence, des problèmes addictifs et psychologiques, ça peut aggraver ça aggrave en fait, ça rend la violence plus grave et beaucoup beaucoup plus difficilement changeable. Donc voilà.
Et autre idée, dernière idée reçue.
Ouais, dernière idée reçue. Il existe autant de femmes agresseuses que d'hommes agresseurs.
Voilà.
C'est juste que c'est plus tabou pour les hommes d'en parler. Et puis les femmes vont utiliser la violence psychologique, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, Il y a très peu d'hommes qui parlent de violence conjugale parce que il y a très peu d'hommes statistiquement victimes de violence conjugale. Et par contre, c'est-à-dire que dans les statistiques,
86% des conjoints sont violents et 97% des victimes sont des femmes.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça les chiffres.
Et pour les violences sexuelles, c'est encore plus marquant. 99% des condamnations pour violences sexuelles sont le fait d'hommes. En revanche, il est relativement courant que des hommes conjoints violents lancent des procédures contre leurs victimes pour empêcher qu'elles se défendent. C'est quelque chose qui n'est pas rare.
Alors, on a vu, il y a en fait des idées reçues, il y en a 12 dans ton album,
oui.
dans ton roman graphique plutôt. Et on va revenir à Sophie. Donc, Sophie a un boulot alimentaire, mais elle est stable. Elle a un appartement, elle paye ses factures, elle est. Et un beau jour, Julien lui demande, lui explique qu'il va être à la rue. Et il fait tout pour s'installer chez elle.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle ne le sent pas trop. Elle sent que ça pue.
Ouais, et, comme elle dit.
Elle arrive pas, elle n'ose pas vraiment l'envoyer bouler parce qu'elle sent que si elle le dit non, bah en fait ça va casser avec lui, quoi. Mmh. Et donc il insiste, en fait il fait en sorte, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'elle est hésitante, que ça l'arrange pas trop, mais il va insister un petit peu et donc elle va finir par dire ok, bon bah je t'héberge pour un petit moment et puis jusqu'à ce que tu retrouves un appart. Puis en fait, finalement, il s'installe chez elle et donc...
L'engrenage peut s'installer.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, pour en revenir à Julien, il y a un passage où vraiment, qui est problématique, c'est que Sophie passe un entretien d'embauche pour un stage très important. Elle est presque prise... Et lui veut la place.
Ouais.
Et il obtient, à force de manœuvre, qu'elle se désiste à son profit. Mais ça, c'est très bien expliqué dans ton roman graphique. Le déclassement professionnel dû aux violences, on n'en parle pas assez. Il y a un coût professionnel aussi.
Oui, tout à fait. En fait, l'impact qu'ont les violences sur la carrière des femmes, elle est énorme. Et pas seulement parce que... c'est-à-dire qu'il y a des cas où il va empêcher la femme de travailler, mais souvent, ça va être plus subtil, insidieux. C'est-à-dire qu'il va saboter ses rendez-vous professionnels ou faire en sorte qu'elle va être dans un état pitoyable le jour de rendez-vous importants... il va exploiter son temps et son travail à son profit. Et le jour où elle a besoin de soutien, en fait, il va faire en sorte de la miner, de la critiquer, de réduire son estime d'elle-même. Et en fait, c'est vraiment tout un ensemble de stratégies qui affectent l'autonomie professionnelle et aussi l'ascension dans la carrière des femmes. Et c'est un rôle très très important dans l'autonomie économique des femmes plus globalement.
Oui, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient autonomes économiquement.
Oui.
Ça fait partie
des stratégies.
Voilà, ouais. Tout à fait. Et ça, on ne le dit pas assez. Parce que Sophie est stable économiquement. Elle a son appartement, même si c'est un boulot alimentaire à la poste, elle paye ses factures, elle paye son loyer. Donc elle n'a pas besoin de Julien pour vivre.
Non, absolument. Et puis surtout, elle a des envies professionnelles. C'est-à-dire qu'elle a l'intention de passer des entretiens d'embauche pour trouver un travail qui est important pour elle. Et en fait, à chaque étape... d'avancement dans sa recherche, il va trouver le moyen pour
saboter
sa progression.
Par contre, elle est à son service
ouais.
pour sa progression à lui.
Tout à fait.
Alors, tu en arrives à dire une phrase très importante. Et je voudrais qu'on termine là-dessus et qu'on la démonte, et que s'il n'y a qu'une seule chose sur ces 90 minutes d'émission que les gens retiennent de cette émission, c'est sans cette phrase-là. Tu fais dire très précisément à l'une des spécialistes, en page 174, « La violence n'est pas traitable. »
Ouais.
Explique-nous ceci.
Tout à fait. En fait, il y a aussi cette idée qui est assez, qui est de plus en plus répandue, et même en France d'ailleurs, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place, que la violence, elle se soigne par la thérapie. Et en fait, d'après de nombreux spécialistes sur les violences masculines, notamment aux États-Unis et au Canada, donc c'est des études qui datent déjà il y a quelques décennies, c'est pas le cas. Non seulement ça n'aide pas, mais en fait c'est même contre-productif et dangereux. Donc on peut citer certains chercheurs, notamment Martin Dufresne. Donc lui, il dit que toutes les évaluations de ces programmes spécialisés pour les agresseurs témoignent depuis plus de 20 ans de leur inefficacité et même de leur contre-productivité en l'absence de sanctions des agresseurs. Et donc en fait, c'est ça l'élément hyper important, c'est que la thérapie, elle ne peut pas marcher tant que l'impunité est préservée, en fait. Mm-hmm. Enfin, si thérapie il y a. Et donc ça, c'est un point. Donc, et le deuxième point, c'est que la thérapie, en fait, non seulement c'est contre-productif, enfin, non seulement ça n'aide pas, mais en plus, ça livre des techniques à l'agresseur pour ensuite mieux manipuler sa victime.
Tout à fait.
Et donc, là, c'est pour citer Annie Ferrand, donc livrer des techniques psy à un homme violent, c'est lui fournir une nouvelle arme, cette fois indétectable et particulièrement destructrice, car elle relève de la torture mentale.
Voilà.
Et donc, pour prévenir la récidive, on travaille le rapport à la loi. Et
En fait, c'est l'impunité.
Oui, c'est ça. C'est fondamental. C'est-à-dire que la violence conjugale, c'est un acte social. Et donc, ça demande une réponse sociale.
Voilà. Alors, justement, on en vient à ce point-là. La violence n'est pas traitable. Il faut une réponse sociale. Quelle solution avons-nous et vers quoi devons-nous tendre? Alors, je sais que ça va être peut-être le prochain roman graphique, mais je voudrais que tu esquisses quelques pistes pour donner un espoir à celles qui sont victimes ou à ceux qui veulent les aider.
D'accord. Alors moi, je suis pas spécialiste en solutions sur ce sujet, mais d'après ce que je pense qu'un bon exemple à suivre, c'est la loi cadre en Espagne. Qui a été mise en place. Enfin, c'est peut-être un des meilleurs exemples qu'on connaisse aujourd'hui en Europe de politique étatique de réduction de violences conjugales. Et d'après ce que j'ai entendu dans des émissions radio qui parlaient de cette loi, ça a eu vraiment des effets positifs dans le fait de réduire les violences conjugales.
L'Espagne était minée par les violences conjugales. Oui. C'est un pays miné par les violences
complètement.
Conjugales.
Et donc, je pense que les deux choses les plus importantes dans la loi cadre, c'est d'abord la protection des victimes et la rapidité de la protection des victimes. C'est-à-dire que le simple fait, même pour l'agresseur, de voir que tout le monde entoure la victime et que c'est elle et qu'elle va être protégée, ça envoie un message que la victime est importante et on va pas et que sa vie est importante et on va pas,
c'est pas une chose,
c'est ça, voilà, et on va pas la laisser continuer à subir la violence et l'humiliation. Mm-hmm. Ça envoie un message fort. Et deuxièmement, le fait de physiquement empêcher les agresseurs d'agresser à nouveau. C'est-à-dire que, en tout cas, enfin, je sais qu'il y a différentes écoles féministes par rapport à l'emprisonnement. Évidemment, moi, je ne suis pas pour enlever la dignité à quiconque, mais par contre, un conjoint violent... Enfin, je pense que c'est naïf de croire que sans la prison, on peut arrêter un conjoint violent. Parce qu'en fait, les agresseurs qui agressent des femmes depuis des années, qui sont récidivistes, on ne peut pas prendre le risque de les laisser
en
liberté et que les victimes soient terrorisées à vie, en fait.
Oui.
Parce que si on laisse des agresseurs en liberté, ça veut dire quoi? Que leurs victimes, elles doivent être en prison, en gros, pour être en sécurité.
Mmh.
Et donc, il y a tout simplement certains types d'agresseurs qu'on doit retirer
de
la société. On ne doit pas retirer leur dignité, simplement leur liberté. Parce qu'ils ne doivent pas avoir accès à des victimes, tout simplement. Et d'ailleurs, on sait que même quand on arrive à mettre des agresseurs en prison, parfois ils continuent à agresser leurs victimes depuis la prison.
Oui.
Quand il s'agit d'enfants notamment, c'est-à-dire qu'on continue parfois à organiser des médiations entre l'agresseur et l'enfant, ou par le biais, ou si c'est des femmes victimes, ils trouvent un moyen de la contacter.
Mmh. Alors c'est pour ça que beaucoup ont proposé en France que l'autorité parentale soit retirée aux parents agresseurs.
Ah oui, mais c'est la base, c'est absolument nécessaire. Un parent violent n'est pas un bon parent. C'est une phrase, il me semble, d'Edouard Durand.
Oui.
Et ça, c'est fondamental. En fait, c'est aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger les femmes victimes de violences si elles ont des enfants, si on ne protège pas aussi les enfants. Parce que continuer à mettre les enfants, continuer à exposer les enfants aux parents violents, c'est exposer la femme et toute la famille. C'est-à-dire que personne ne peut être protégé dans cette configuration-là.
Tu le montres bien dans le roman graphique, parce qu'à un moment donné, il y a un membre de la famille qui essaie de s'interposer et qui se retrouve pris dans le maelstrom de la violence et qui s'ouvre, et ça lui dissille les yeux, il se rend compte dans quoi il est. Dans un rapport, dans un schéma de violence pure et dure.
Mmh.
Voilà. Alors, pour en revenir à la loi cadre en Espagne, est-ce que tu sais s'il y a d'autres dispositions qui sont aussi, comment dire, emblématiques, qui pourraient permettre d'être une solution qu'on pourrait promouvoir en France pour faire une réponse sociale, outre retirer de la circulation l'agresseur, ne pas lui enlever sa dignité, mais le retirer et lui enlever sa liberté, l'empêcher de reprendre contact avec l'enfant ou la victime.
Moi, je suis pas spécialiste de ces questions-là, donc je pense que les associations seraient plus à même de répondre à ces questions. Je pense que c'est d'ailleurs, ça a commencé à être mis en place une aide financière aussi pour les femmes qui fuient la violence et qui est indispensable pour leur libération.
Oui.
Et tout ce qui peut permettre à la femme, à la victime en tout cas, de se reconstruire et d'être à l'abri. Voilà. Après, moi, c'est vrai que comme je suis plus dans le milieu associatif, j'ai perdu un peu
les repères.
Voilà, non, pas les repères, mais disons que je suis plus trop les arguments. Je pense qu'une personne d'une association féministe pourrait beaucoup mieux répondre que moi pour les revendications actuelles.
D'accord. Alors donc, la violence n'est pas traitable. Il faut vraiment marteler ça à l'entourage.
Oui, c'est vraiment fondamental, et même pour les victimes, en fait, parce qu'il y a souvent cet espoir que
ça va changer.
En aidant l'agresseur, il va devenir moins violent. Mais en fait, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que quand bien même l'agresseur changerait, le cadre du couple n'est pas celui dans lequel il peut changer, puisque en fait c'est le contexte dans lequel il est violent. Et donc seule une figure d'autorité dans un contexte de rappel de la loi peut avoir un quelconque impact, et ce sera pas, ça viendra pas de la victime, puisque c'est la personne même qu'il méprise, en fait. Donc c'est fondamentalement impossible, quoi.
Voilà. Donc il faut une autorité et il faut mettre à l'abri les victimes.
Oui, tout à fait.
Alors, je voudrais que, avant qu'on ne finisse, que tu... Donc c'est ton troisième roman graphique. Voilà. Et je voudrais que tu reviennes sur... Tu as réalisé deux documentaires. Ils sont sur quoi ?
J'ai fait un premier documentaire au Pérou et un second documentaire au Guatemala.
Ah bon ?
Donc c'était des documentaires autoproduits. Le premier, ça a été sur la communauté Shipibo au Pérou, donc qui vit dans la forêt amazonienne à Pucallpa et Iquitos, et donc une partie de la population a commencé à migrer à Lima, et donc j'ai fait des interviews, j'ai voulu comprendre l'impact de la migration vers la capitale sur leur société et puis sur leurs pratiques ancestrales, et donc ça avait été fait en collaboration avec des chercheurs aussi péruviens à Lima.
D'accord. Et le deuxième ?
Et le deuxième, ça a été, c'est à la base, c'est venu d'un échange en fait avec. Donc en fait, le documentaire porte sur une association qui s'appelle Actoras de Cambio, et ça veut dire actrices du changement. Et c'est une association qui s'est créée pour aider les femmes victimes de viols de guerre au Guatemala.
Oui. Qui est une zone de guerre depuis 25 ans à peu près.
Voilà. Et donc c'est une association qui existe depuis quelques décennies déjà, et en fait j'avais rencontré l'une des animatrices de l'association en France, et elle m'avait raconté un peu ce qu'elles faisaient, et en fait elles ont créé des groupes de guérison et des groupes de prise de conscience dans différents villages au Guatemala. Et en utilisant des techniques de guérison des psychotraumas psychocorporels. Et en fait, elles ont intégré vraiment plein d'outils différents. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et donc, j'ai voulu absolument aller les voir et apprendre de leur méthodologie. Et donc, elles ont dit, OK, en échange, tu fais un documentaire sur notre association.
Oh.
Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc il y a ces groupes qui se sont créés à travers leur travail de guérison, et donc c'est devenu en fait aussi assez politique finalement, et les femmes qui ont participé à ces ateliers elles ont commencé à prendre le pouvoir dans le village, à changer les choses aussi structurellement dans leur mode de vie, par rapport à leur relation aux hommes. Enfin, c'est vraiment...
un bouleversement.
Ouais.
Parfait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler du... Tu l'as présenté très rapidement dans la première partie, le petit guide pour une sexualité féministe et épanouie, avec Oser le féminisme, aux éditions First,
ouais,
que tu as illustré.
Oui, donc j'ai fait les illustrations pour ce livre. En fait, c'est un guide d'éducation à la sexualité, destiné principalement aux adolescentes, mais aussi aux parents qui veulent avoir mieux comprendre certaines choses ou mieux expliquer certaines choses. Et je trouve que c'est vraiment un guide extrêmement complet sur plein de sujets, sur la sexualité, sur la masturbation, la pornographie, sur l'anatomie du clitoris aussi. Je recommande vivement ce livre.
D'accord. Donc, ton ouvrage pour lequel nous t'avons invité à Pas de Quartier, c'est Amour en cendres. Donc, il est paru le 29 septembre dernier. Il coûte 20,95 €. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Andrea, Femi et Sophie. Trois femmes, trois destins. Chacune a croisé la route d'un homme violent qui a bouleversé sa vie. Mais en même temps, Amour en cendres, c'est des concepts, c'est des explications, c'est un manuel pour, et on le dit bien, informer, alerter et réagir. C'est vraiment ça, le but ? Est-ce que tu penses que tu as atteint ton but ? Tu as des retours de ton éditeur?
Ouais, alors j'ai eu des retours de lectrices principalement. Et j'ai été vraiment très touchée des retours jusqu'à présent. Celles qui l'ont lu, en tout cas, on dit que ça les a...
Bouleversés.
Ça les a à la fois bouleversés, que c'était dur à lire, et en même temps que ça leur a permis de comprendre plein de choses, et vraiment de mieux comprendre. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment l'objectif du livre, c'est de permettre de mieux comprendre les violences conjugales, de comprendre... si on n'a pas vécu, de permettre de rentrer dans la peau de quelqu'un qui l'a vécu et d'avoir un aperçu de ce que ça fait de ressentir en fait de l'intérieur, et pour une personne qui l'a vécu, d'arriver à mettre des mots sur ces situations et de pouvoir donner du sens à la violence et pour mieux nommer et puis pour s'en libérer en fait.
D'accord. Bon, alors je rappelle Amour en cendres de Anne Billows, B-I-2-L-O-W-S. Alors, dans la collection La vie en bulle chez les First Editions, et c'est 20,95 €. On peut la voir à Publico, notre Publico chéri, 145 rue Amelot, métro, les trois métros, République, Fille du Calvaire, Oberkampf. Jean-Michel, je te remercie pour nous avoir animé et assuré la technique. Anne, je te remercie d'être venue de Caen exprès pour cette émission.
Merci à vous.
Voilà, je remercie tous les auditeurs qui nous suivent fidèlement et qui nous font remonter des remarques, des critiques même. On progresse grâce à vous. Merci infiniment. Je vous dis à rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, essayez de faire battre M. Macron en retraite sur la question des retraites. Merci beaucoup.
Merci.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure, ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Nous vous demandons pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Nous vous demandons pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve.